Chapitre 23, dans la gueule du loup.
Monsieur le principal,
bégaya Pépé.
Laissez-moi vous expliquer, il s'agit d'un affreux malentendu.
Nous devions avoir fière allure tous les deux, clignant des yeux comme deux taupes dans ce bureau illuminé avec nos vêtements noircis de poussière. En face, le spectacle ne valait guère mieux. Le principal, en robe de chambre, avait les cheveux dressés sur la tête, comme s'il était tombé du lit. À ses côtés, M. Guimet mâchonnait sa pipe éteinte, flanqué de Chopinot, qui bâillait à s'en décrocher la mâchoire. Le principal s'étrangla. Un malentendu ! En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça, et naturellement, Pharamond est de la partie ! J'essayais de me faire tout petit dans mon coin, tandis que Pépé bravement bredouillait des explications.
Je reconnais que les apparences sont contre nous, mais...
Les apparences ? Me prenez-vous pour un imbécile ? Rugit le principal en tirant frénétiquement sur son col de pyjama.
Oui, monsieur. Enfin, non, je veux dire non, monsieur le principal.
Une apparence ? Ces polochons glissés sous les draps pour faire croire que vous dormiez. Tout mon personnel debout, des pensionnaires qui rôdent dans l'établissement à 3 heures passées, et vous parlez d'apparence, de Culbert ?
Il avait tourné au rouge brique, se hissant sur la pointe des pieds comme s'il était sur le point d'exploser.
« Mais dites-moi que je rêve, que tout ceci n'est qu'un horrible cauchemar !»« Vous, de Culbert, l'espoir de cet établissement, faisant le mur comme un vulgaire maraudeur !»
Il en bégayait de rage, arpentant le bureau en faisant claquer ses mules, le visage congestionné et faisant de grands moulinets avec ses bras.
On agresse mes gens, des étrangers entrent dans le collège comme dans un moulin, mes élèves se promènent la nuit dans les caves, et monsieur de Culbert, avec un aplomb proprement sidérant, prétend qu'il peut tout expliquer.
Je remarquai qu'il n'avait pas parlé de Mathilde, avait-elle pu s'échapper?
Nous ne nous promenions pas, monsieur le principal, pour tout vous dire, nous cherchions un trésor.
Voyez-vous ça, un trésor, dans les caves du collège. Décidément, j'aurais tout entendu cette nuit. D'abord, ce monsieur qui se prétend un ancien élève, et puis les fariboles des deux illuminés crottés comme des ramoneurs.
C'est alors que je remarquai, tassé dans un fauteuil, un petit homme à demi chauve au visage chiffonné qui écoutait en silence.
Ah, parce que nous tenons votre complice, monsieur Belette, ici présent, dont j'attends les explications, et qui, sans la vigilance de monsieur Guimet, serait loin à l'heure qu'il est. Jacques Belette !
Nous nous étions exclamés d'une seule voix. C'était donc ça, le rôdeur, ce petit homme à l'air traqué qui nous observait sans rien dire.
« Vous voyez, vous reconnaissez votre complice !» tonna le principal.
« Mais c'est lui qui a attaqué Monsieur Cornu. C'est lui qui a pris le trésor !»
Sans réfléchir, je m'étais jeté sur le sac que l'homme tenait entre ses genoux, et je lui arrachai et le tendis triomphalement au principal.
« Tenez, regardez !»
Mais en fait, trésor, le sac ne contenait qu'une pioche, celle que nous avions trouvée dans les massifs le premier soir.
« Plus un mot, Pharamond ! Vous vous enfoncez un peu plus chaque fois !»
lança le principal d'une voix cinglante. Puis se tournant vers le surveillant, d'une voix qu'il voulait plus calme, « Chopinot, conduisez-moi ces deux olibrius au dortoir et veillez à ce qu'ils y restent jusqu'au matin, sans autre histoire !»
J'attends ces messieurs de la maréchaussée qui escorteront Monsieur Belette en un lieu où il sera bien obligé de s'expliquer. Quant à vous deux, dit-il en nous montrant du doigt, vous ne perdez rien pour attendre.
Je m'étonne en tout cas que d'aussi hardis explorateurs n'aient pas su qu'on accède directement de ce bureau aux appartements par la petite porte que vous avez franchie. Cela vous aurait évité de vous jeter ainsi dans la gueule du loup.
Nous quittâmes le bureau la tête basse. L'orage était passé. Mais à côté de celui que nous allions devoir subir demain, ce n'était qu'un coup de tabac sans importance. Heureusement que Mathilde avait pu s'en tirer. Pour ma part, j'étais cuit, définitivement cuit.